Donc, maintenez sous les yeux 1 Thessaloniciens, chapitre 4, les amis. Je suis content d'être de nouveau dans cette épître de 1 Thessaloniciens. Ça a fait un petit moment inattendu, d'ailleurs, que nous avons sauté plusieurs dimanches avant de revenir maintenant vers 1 Thessaloniciens. C'est bien d'avoir nos pieds dans un endroit fixe pendant cette période où beaucoup de choses changent. Des changements, il y en a, nous en sommes conscients, des choses inattendues, n'est-ce pas, des choses inquiétantes, des choses tristes, des choses frustrantes, oui, et aussi des choses parfois décevantes. Et beaucoup d'inconnus pour le moment, n'est-ce pas, pour nous personnellement, mais pour nous aussi en tant qu'Église. D'ici un mois, où est-ce que nous allons nous réunir? Chez soi, au cinéma de Stockel, avenue Slegers, ailleurs encore, moi, je ne sais pas. Et nous devons faire face à cela. Ici, dans 1 Thessaloniciens, nous avons un mot certain par rapport à ce que Dieu il veut dans tout cela. Et ça, nous le voyons de manière assez claire au verset 3. De notre texte. Ce que Dieu veut, c'est quoi? Alors, ce que Dieu veut, verset 3, c'est votre sanctification. Il y a beaucoup qui prétendent savoir ce que Dieu veut. Beaucoup qui pensent, d'ailleurs, que c'est très spirituel d'utiliser le langage « Dieu m'a dit que ». Peut-être que vous avez entendu cela dans votre entourage, peut-être que vous avez employé ce genre de choses vous-même. Dieu m'a dit que je devais te parler. Ou Dieu m'a dit qu'un tel est celui que je dois marier. Ou Dieu m'a dit que je dois venir à Bruxelles. Dieu m'a parlé de cette église. Chaque fois que j'entends ça, j'ai envie toujours de répondre non. C'est pas Dieu qui a dit, c'est vous qui avez l'impression que Dieu vous a dit, car le milieu dans lequel vous avez grandi, spirituellement parlant, vous a appris à employer un tel langage. Mais il ne faut pas confondre la subjectivité de ce que nous ressentons avec la voix définitive de Dieu. Car ce que Dieu dit dans sa parole n'est pas d'abord un mot personnalisé à propos de moi, dans mes circonstances, à moi, le boulot que moi je dois faire, ou la personne que moi je dois rencontrer, le voyage que moi je dois entreprendre. Non, ce que Dieu dit tourne autour de lui. Qui il est, ce que lui, il a fait, et ce qu'il fait pour que nous puissions nous approcher de lui. Aussi faible, aussi confus, aussi rebelle, aussi compliqué que nous sommes en tant qu'être humain. Car lui, il est saint et il est aussi miséricordieux. En Christ, il a inauguré son royaume. Et il mènera ce royaume à son accomplissement final lors de son retour. Donc, comprendre ces choses-là, comprendre ce que Dieu est en train de faire, et nous comprenons petit à petit sa volonté, ce qu'il veut. Et c'est dans ce cadre que nous entendons verset 3 que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est de refléter nous, comment lui, il est. Il est saint. Et toutefois, ce Dieu qui est saint, qui est parfait, qui est pur, qui est juste, c'est lui qui appelle un peuple à lui. Il appelle ce peuple par sa grâce, parce que nous ne méritons pas d'être membres de sa famille. Mais dans sa grâce, il nous prend tel que nous sommes pour être membres de sa famille. Et selon le chapitre 1 de 1 Thessaloniciens, le verset 10, c'est lui qui nous délivre de la colère à venir. Et cela par Jésus-Christ, mort et ressuscité, pour prendre cette colère sur lui-même et pour nous donner, nous mener à la nouveauté de vie. Et que fait-il ensuite ce Dieu qui agit, qui est saint, mais qui est compatissant, qui fait de nous son peuple? Que fait-il ensuite? Il œuvre en nous pour que nous reflétions son caractère à lui. Donc, oui, ce qu'il veut dans sa famille, au sein de sa famille, c'est que nous soyons comme lui, que nous soyons donc saints. Rappelons-nous que Paul écrit à une jeune église, née spirituellement parlant, suite à des conversions à Christ qui ont eu lieu après le passage de l'apôtre Paul dans la ville de Thessalonique. Il n'y était pas pour longtemps, à peine quelques semaines, car ceux qui s'opposaient au message de Christ l'ont chassé de la ville de Thessalonique. Mais au terme de son séjour dans cette ville, des nouveaux croyants convertis qui avaient formé une nouvelle église, une nouvelle implantation d'église. Et malgré la pression très forte de la part des autorités juives, des tribulations dont il parle au chapitre 1, au chapitre 2, des épreuves, des souffrances, cette jeune église de jeunes chrétiens, ils tiennent bon. La parole du Seigneur a retenti de chez eux, nous dit le chapitre 1. Ils sont tenus par Paul comme étant des modèles de chrétiens pour d'autres dans la Macédoine. Et donc, Paul, il est inquiet pour cette jeune église, pour ces jeunes chrétiens. Il prend nouvelle d'eux depuis son départ de la ville. Et il envoie donc son collaborateur proche, Timothée, pour prendre des nouvelles de cette église. Et Timothée vient de rejoindre Paul lorsque Paul maintenant écrit la lettre de 1 Thessaloniciens. Et il exprime sa joie d'entendre que cette église, ces chrétiens, se portent bien, que leur foi chrétienne est bien authentique, qu'il n'y ait pas de gros soucis dans leur foi actuellement. Quelle bonne nouvelle d'entendre ça! C'est comme si après 6 mois de confinement ou de peu de visibilité les uns avec les autres, on croise quelqu'un de notre église qu'on n'a pas vu et on est réconforté d'entendre « Non, non, ça va bien. Bah, » c'est chouette d'entendre que ça va bien. C'est ça le ressenti de l'apôtre Paul ici. Mais ce n'est pas parce qu'ils vont bien qu'ils n'ont pas besoin d'exhortation ou d'encouragement, non. Non, non, c'est le contraire. Il faut exhorter ceux qui vont bien dans leur foi à continuer à aller dans la bonne direction. Et c'est la même chose pour nous. Ce n'est pas parce que je vais bien que je n'ai pas besoin d'exhortation et d'encouragement. On voit cela dans la prière de Paul qui précède le chapitre 15, au verset 10 du chapitre 3. Il dit qu'il prie nuit et jour afin de supplier à ce qui manque à votre foi. Il est concerné de voir que ces chrétiens grandissent. Et on voit ça dans ces versets qui sont sous nos yeux. Le verset 1, que dit-il? Il dit « progresser encore ». Et que dit-il vers la fin de ce passage, verset 10? Il dit « progresser encore ». Ici, c'est la partie la plus pratique de la lettre. Là où il mentionne le comportement, les actions de ces Thessaloniciens. Après, plus tard dans le chapitre 4, le chapitre 5, il leur parlera de la résurrection, du dernier jour, le jour du Seigneur. Mais ces versets-ci se focalisent sur deux domaines concrets où il y a du progrès à faire. Il s'agit de la sexualité et de l'amour fraternel. Alors, je sais que la plupart d'entre nous n'ont pas trop envie d'entendre parler de ce que la Bible dit à propos de la sexualité, surtout lorsque nous sommes rassemblés ici dans un Zoom. Car j'imagine, nous supposons qu'il s'agit d'une liste de choses à ne pas faire, à ne pas penser, à ne pas regarder, à ne pas toucher, et ainsi de suite. Si on ajoute à cela le ressenti fort probable chez beaucoup d'entre nous d'avoir échoué dans le domaine de la sexualité, d'avoir péché, alors en regardant ces versets, on court le danger de découragement dès le début. Oh non, on va me taper dessus ici. Non, ici, c'est un mot progrès qui est important à capter. Ils cherchent non pas la perfection, mais le progrès. Et cela dans le contexte donc de plaire à Dieu. Plaire à Dieu, voyez-vous, c'est possible. Beaucoup d'entre nous ont une conception de Dieu qu'on ne pense pas, je dois lui obéir, je dois me soumettre à lui, mais lui plaire, est-ce vraiment possible? Oui, c'est possible pour nous, des chrétiens tout à fait ordinaires. Ce n'est pas réservé à une élite chrétienne, plaire à Dieu, des professionnels ou des types super religieux. Non, c'était possible, voyez-vous, pour ces jeunes chrétiens à Thessalonique de plaire à Dieu. Une ville, Thessalonique, païenne de l'Empire romain, avec une éthique sexuelle bien, bien loin de celle de la Bible. Les citoyens de Thessalonique, comme pour d'autres villes dans la région, étaient fort, fort influencés par le Dieu. Les dieux païens, dieux comme Zeus ou Apollon ou Dionysos, qui eux dominaient sur les eaux, violaient souvent des hommes et des femmes, d'autres dieux. Et de même, les hommes puissants, les humains puissants de l'époque, traitaient souvent des femmes et des esclaves, qu'ils soient hommes ou femmes, comme s'ils pouvaient également les dominer. Pour leur propre plaisir, l'éthique sexuelle à Thessalonique ressemblait beaucoup plus à ce que nous vivons aujourd'hui qu'à n'importe quelle autre époque de l'ère chrétienne. Donc, ce n'est pas que la Bible ne connaît pas un contexte fort sexué comme le nôtre. Là où on se moque de l'éthique chrétienne et on imagine que l'épanouissement et la joie se trouvent loin des mœurs chrétiennes. L'un des personnages au centre de la révolution sexuelle des années 60 aux États-Unis disait justement que la société était en train de ressentir de fortes influences dionysienne, donc de nouveau de ce dieu païen qu'il évoquait. Et dans ce monde-là, un monde donc très proche au nôtre, Paul s'adresse à ces jeunes chrétiens et que dit-il? Il dit progresser. Non pas progresser pour être accepté par Dieu, mais progresser quand Dieu m'a accepté, quand maintenant je lui appartient. Et donc, progression dans ce premier domaine de la sexualité signifie quoi? Verset 3, de nouveau. C'est que vous vous absteniez de l'inconduite, de l'immoralité sexuelle. Ici, le mot pour immoralité sexuelle, c'est le même mot qui sert de racine pour notre mot pornographie, mais cela désigne ici toute activité sexuelle qui a lieu avec une autre personne en dehors du cadre du mariage hétérosexuel. C'est uniquement ce cadre-là qui sert à canaliser le don de la sexualité. Ce n'est pas, voyez-vous, que le christianisme est contre le sexe. Non, le sexe est bon, créé par Dieu pour l'intimité, pour renforcer des liens entre deux personnes, pour la procréation aussi. Mais c'est puissant, c'est précieux, oui, c'est passionnant, et c'est pour cela qu'il faut un cadre pour que cela soit employé de manière saine. Et le cadre que Dieu donne, c'est le mariage, qui assure la fidélité, qui accompagne une telle ouverture intime. Je me souviens toujours de mon prédécesseur à l'Église évoluée. Il s'appelait Jim, il s'appelle toujours Jim Moore, qui disait par rapport à ceci que le feu dans la cheminée était très agréable au sein d'une maison, n'est-ce pas? La chaleur agréable des flammes, c'est une bonne chose. Mais si tout d'un coup ce feu se trouve dans le salon et plus dans la cheminée, alors ces flammes deviennent très dangereuses, beaucoup de dégâts. Verset 4, que chacun de vous sache tenir son corps dans la sainteté. Ici, le mot traduit corps désigne nos organes sexuels. Le verset 5 continue que nous ne devons pas nous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Dieu, d'ailleurs, par son esprit, demeure en nous. À la fin du verset 8, c'est ça ce que Paul affirme. Donc, la distinction ici entre croyant en Christ et non-croyant est frappant, n'est-ce pas? Si le monde crie haut et fort qu'il ne faut pas nier ce que nous sommes, ce que nous ressentons, ce que nous désirons, c'est plutôt de poursuivre à tout prix par honnêteté à nous-mêmes nos propres impulsions et désirs. Alors le croyant en Christ, c'est lui qui a une nouvelle puissance à l'œuvre en lui, une nouvelle personne pour l'aider à ne pas être contrôlé par ses désirs. Dieu lui-même œuvre en nous par son esprit pour réorienter nos désirs. Dieu, verset 7, ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Progresser donc signifie de recadrer ma vie sexuelle. C'est-à-dire de ne plus cliquer sur un site ou choisir une chaîne sur la télé si ce que je vois m'attrape et me donne soif d'aller encore plus loin, de voir plus. Ça signifie de ne pas céder à la tentation de briser les limites en tant que couple fiancé avant le mariage. Ça signifie de ne pas suivre la direction de mon cœur si je suis attiré vers quelqu'un du même sexe. Ça signifie de ne pas petit à petit nourrir l'intimité d'une relation avec quelqu'un d'autre qui n'est pas mon conjoint à un point que je me trouve avec des liens dangereusement proches de cette personne. Est-ce que c'est trop dur de résister de cette manière-là? C'est bien cela que le mensonge que le tentateur, le menteur, dès le commencement, nous avons vu jeudi dernier dans l'étude sur la Genèse. C'est ça ce que lui, il essaie de nous dire. Il chuchote encore dans notre oreille. Est-ce vraiment le cas qu'il faut faire ça? Il a tort, le menteur. Le tentateur, il veut nous détruire. Et Dieu veut, par sa grâce, nous reconstruire. C'est lui le créateur même du sexe. Il sait comment l'utiliser pour sa gloire et non pas pour notre propre gloire à nous. Par l'œuvre de son esprit en nous, que sa sainteté donc se voit en nous. Alors, voici une illustration pour nous aider avec ceci. Imaginez-vous que cette semaine, moi, je reçois un appel ou un email, je ne sais pas comment ils contactent des gens, de la part d'une équipe de football que moi, j'aime beaucoup. Manchester United. Je sais que peut-être vous êtes supporter d'une autre équipe, mais ce n'est pas grave. Imaginons qu'eux, ils veulent ma signature. Donc, je signe un contrat de 2 ans, salaire très modeste de 100 000 euros par semaine. Et je quitte donc l'équipe Joss Smith United. Joss Smith, c'est là où j'habite, si vous ne savez pas. Je quitte donc Joss Smith United pour rejoindre mon nouveau club. Alors, qu'est-ce que cela implique pour moi en tant que nouveau joueur du club Manchester United? Ben, ça implique que je dois m'aligner à la manière de faire de mon nouveau club. Que je porte plus le maillot de Joss Smith United, mais je porte maintenant le maillot de Manchester United. Ma façon de jouer doit changer pour être conforme à mon nouveau club. Ce serait trop bizarre de continuer à jouer en tant que joueur pour Manchester United, comme si j'étais toujours un joueur de Joss Smith United. Alors, de même pour le chrétien. Dieu, dans sa grâce, nous a appelés à lui, à son équipe. Il n'a pas fait cela sur base de ma performance jusque-là en tant que joueur chrétien. Non, Il a fait ça sur base de sa bonté envers nous. La conséquence de cela, c'est que j'apprends maintenant dans son équipe à jouer pour son équipe, à refléter les qualités de mon nouvelle appartenance. Mais bien sûr, si on creuse trop cette illustration, ce n'est pas exact. Quand on sait bien, je ne serai jamais, moi, sélectionné pour Manchester United si je ne suis pas encore un très, très bon joueur de haut niveau. Ben, est-ce qu'ainsi que je suis sélectionné alors dans l'équipe de Dieu, dans sa famille, parce que déjà je fais preuve de beaucoup de qualités morales, spirituelles. Dois-je être donc un joueur d'un assez haut niveau spirituellement parlant pour être sélectionné? Non, non, la Bible nous dit à plusieurs reprises que Dieu sélectionne des nuls pour constituer son équipe. Les derniers et non pas les premiers. Les bien portants, nous disait Jésus, n'ont pas besoin de médecins, mais des malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. C'est une bonne nouvelle. Je suis dans l'équipe de Dieu par sa grâce, non pas d'abord par ma propre performance. Mais une nouvelle fois, on reprend l'illustration. Imaginons donc que je joue en tant que nul, alors, pour Manchester United. Autour de moi, j'aurais Paul Pogba, j'aurais Marcus Rashford, j'aurais Wan-Bissaka, j'aime beaucoup celui-là, j'aurais Bruno Fernandes, et ainsi de suite. Eux, ils ont tous la vingtaine. Ce n'est pas un secret, je m'approche moi maintenant de la cinquantaine. Eux, ils s'entraînent tous les jours. Et moi, les 6 km pour les portes ouvertes m'a presque tué. Eux, ils jouent du foot professionnel tous les jours. La dernière fois que moi, j'ai joué, c'était sur le sable lors des vacances familiales. Et je me sentirais donc comment, tout d'un coup, de me retrouver dans l'équipe de Manchester United, tel que je suis, nul que je suis en foot, devant toutes les caméras et des millions de spectateurs. Alors, je me sentirais comment? Je serais terrifié de jouer dans cette équipe. Je serais de loin le maillon le plus faible de l'équipe. Et parfois, c'est comme ça que nous pouvons sentir par rapport à la sainteté. Nous regardons autour de nous et nous disons, ben, moi, je ne suis pas à la hauteur dans ce domaine. Mais ce n'est pas comme ça dans l'Église de Jésus-Christ. Jésus rassemble des gens de tout arrière-plan divers, des personnes qui luttent avec tout un tas de péchés divers, y compris l'immoralité sexuelle sous toutes ses formes. Jésus le sait. Dieu ne s'attend pas à ce que je sois parfaitement à son niveau dès mes premiers entraînements dans la foi. Non, Dieu prend du plaisir à voir que ses enfants progressent. Les enjeux sont grands. Il faut progresser. Car beaucoup autour de nous nous fait comprendre une nouvelle fois qu'il ne faut pas nier ce que nous ressentons au fond de chacun de nous. On nous dit qu'il faut vivre de manière authentique par rapport à nos impulsions. Ayez le courage d'être ce que vous êtes, nous dit la plupart des films que nous regardons aujourd'hui. Mais c'est trompeur, ce message-là. Car qu'est-ce qui définit ce que nous sommes, ce que vous êtes? Comment savoir si vos ressentis sont bons et naturels plutôt que mauvais et tordus, les conséquences de la chute d'un monde déchu dans lequel nous vivons? Est-ce que ce qui vient naturellement à nous est toujours forcément une bonne chose? Est-ce qu'un homme colérique doit nier ce qu'il est? Est-ce qu'on dirait cela à un homme colérique de juste faire ce qu'il ressent en lui? Non, je lui dirais de contrôler cette impulsion. De même, alors nous sommes appelés à contrôler notre corps à la gloire de Dieu. Rejeter cette œuvre de Dieu vers la sainteté, c'est rejeter Dieu, nous dit le verset 8. progressez donc, ne faites pas de tort non plus à tes frères, selon le verset 7. Que nul n'agisse au détriment de son frère et ne lui cause de tort en cette affaire. Je lis une autre traduction. Oui, l'immoralité sexuelle fait des torts entre chrétiens, vous savez. Je pense à un jeune couple qui ont cédé sexuellement parlant avant le mariage, par naïveté de penser qu'ils pouvaient mettre le bar assez avancé dans l'intimité permise sans qu'on le qualifie forcément comme immoralité sexuelle. Conséquence, ben, la pierre qui roule ne peut pas s'arrêter. Je pense à une femme chrétienne qui trouvait une oreille très sympathique d'un autre homme lorsque son mari à elle était un peu trop préoccupé par son travail. Et cette intimité avec cet autre homme menait ensuite à trop d'intimité. Je pense à un couple qui lutte car il y avait infidélité sexuelle avant le mariage de la part de l'un des deux. Et cela est revenu dans le couple comme étant une difficulté par la suite. Je pense tristement à Ravi Zacharias, décédé cette année-ci, apologète chrétien, mais maintenant soupçonné de certains délits sexuels, qui a eu un impact néfaste sur tous ceux qui ont été influencés par son ministère. Donc, il ne faut pas qu'on soit aveugle à ce défi. Verset 6, deuxième partie, nous dit que le Seigneur fait justice de tout cela. Nous l'avons déjà dit et attesté. Faut probablement, Paul Dant avait déjà mentionné ces choses à ces jeunes chrétiens lorsqu'il était avec eux. Vivre donc sans changement, sans progrès, continuer donc à faire fi de Dieu et de sa sainteté, c'est de devoir faire face à Dieu, pas en tant que Père compatissant, mais en tant que juge saint et parfait. Il faut le progrès dans ce domaine. Alors, plus brièvement, le deuxième domaine. Quel est ce deuxième domaine? Soyez fraternels dans vos relations avec d'autres chrétiens. À partir du verset 9, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous êtes vous-même instruits par Dieu en vue de l'amour réciproque. C'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Il y a un amour réciproque déjà chez ces Thessaloniciens. Pas simplement à Thessalonique envers les frères et sœurs de Thessalonique, mais également plus largement ailleurs dans toute la Macédoine. C'est encourageant de l'amour qui s'exprime, on suppose, dans le projet commun de servir le Seigneur, de travailler ensemble pour la gloire du Seigneur, d'aimer notre prochain, de se sentir concerné par les joies et des luttes, des peines des autres, des luttes liées également à la foi. Mais toutefois, il continue, « Mais nous vous exhortons, frères, à progresser encore. » Mais qu'est-ce que ça implique alors de progresser encore si tout va bien? Verset 11, « À mettre votre honneur à vivre en paix, à vous occuper de vos propres affaires, et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé. Cela pour que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. » Qu'est-ce que ça implique? Ben, ça implique s'occuper, savoir s'occuper de ses propres affaires. Une nouvelle fois ici, je pense que nous voyons Paul qui s'attaque à un pseudo-spiritualité qui n'impressionne pas le monde non-croyant autour de nous. Louer Dieu tout en dépendant de manière irresponsable des autres, lorsqu'on peut bel et bien travailler nous-mêmes, cela on dit long sur notre spiritualité, chers frères et sœurs. Demander une aide de la part des frères et sœurs sans vouloir faire d'abord le nécessaire pour ne pas être un fardeau sur les autres, ben c'est tout simplement injuste. C'est l'une des raisons principales qu'il faut être prudent en tant qu'Église, en tant qu'individu, dans notre façon d'aider ponctuellement ou régulièrement l'une ou l'autre personne. Car si une personne, par mauvaise gestion et manque de sagesse, dans ses achats se trouve dans le besoin et par conséquent fait appel à l'Église pour de l'aide, tandis qu'une autre personne travaille à fond, bien plus que ses 38 heures légales pour subvenir tout juste à ses besoins et aux besoins de sa famille, pour ne pas être à charge des autres, cette dernière personne pourrait à juste titre commencer à se décourager en voyant que l'aide va vers la première personne. Bien sûr, il y a des cas ponctuels et dans notre Église, nous en avons connu. Cette année-ci, de temps à autre, nous vous contactons, surtout si vous êtes membre de l'Église, pour une aide ponctuelle envers différentes personnes. C'est important d'aider concrètement nos frères et nos sœurs qui sont dans le besoin. Chômage, accident de travail, difficulté de statut légal et autres nous ont poussés en tant qu'Église à soutenir différentes personnes cette année-ci. Mais cela devrait être, si possible, ponctuel, sur base d'une connaissance du frère, de la sœur qui se présente devant nous. Bien sûr, ce principe s'applique de manière plus large que simplement la question du soutien financier. Ça signifie de ne pas avoir une réputation au travail d'être un paresseux, un fainéant, tout en étant quelqu'un qui fréquente l'Église, qui aime parler de Dieu. Non, au travail, nous sommes au travail pour travailler, non pas pour évangéliser. Oui, nous sommes appelés, même lorsque nous travaillons, à partager la bonne nouvelle là où le Seigneur nous donne des occasions. Mais notre employeur ne nous engage pas, hein? Sans que je le sache, à part si vous êtes comme moi engagé par l'Église, notre employeur ne nous engage pas pour partager la bonne nouvelle aux autres. Donc, d'avoir une réputation comme évangéliste au sein de votre boulot, sans avoir également une réputation de quelqu'un qui travaille correctement, cela aussi porte un mauvais témoignage de Christ. Le chrétien doit apprendre à ne pas être un fardeau pour les autres, d'avoir des collègues qui doivent faire rattraper votre travail parce que vous ne l'avez pas bien fait, tout en invitant ses collègues à vouloir découvrir Jésus-Christ, ça ne va pas avoir un succès. Chers amis, je pense à un ami jeune chrétien lorsque moi je travaillais à Londres, j'étais dans un bureau d'avocat et lui aussi était jeune avocat. Il voulait me parler de ce que nous avons partagé ensemble à l'église. C'était au plein milieu de la journée. C'était pas là où on mangeait ensemble, où on pouvait prendre du temps ensemble, mais pendant une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de minutes, il tenait à mon bureau. J'essayais de travailler les dossiers que j'avais. À un moment donné, je devais lui dire, écoute, mon ami, tu dois aller travailler. J'ai du travail à faire. Nous sommes ici pour travailler. On peut en parler plus en dehors du travail pour nous encourager mutuellement. Donc, voilà le souci que Paul, il a. Il a ce souci de voir des chrétiens progresser. Deux domaines, il mentionne spécifiquement. L'un était plus urgent pour les Thessaloniciens, domaine de l'immoralité sexuelle. L'autre, ils allaient bien, mais ils devaient continuer à progresser dans ce domaine aussi. Et je me demande alors, pour terminer, lequel des deux domaines est-ce que Paul dirait le plus urgent pour nous, les croyants à l'église de Woluwe? Si lui, il nous écrivait aujourd'hui, que dirait-il par rapport à nous? J'imagine les deux domaines sont encore à travailler, n'est-ce pas? J'ai un peu peur d'ailleurs que la dernière partie du verset 12 soit pris hors de son contexte et utilisé pour justifier mon indépendance en tant que chrétien. J'ai pas besoin des autres, je n'ai besoin de personne. Voilà, c'est très bien, je n'ai pas besoin d'être fort accroché au sein d'une église. Pourvu que j'ai ce qu'il me faut, ça me suffit. Je pense que le confinement nous met de nouveaux défis dans ce domaine-là. L'amour fraternel du verset 9, du verset 10 témoigne d'une reconnaissance de l'importance de la communion entre frères et sœurs, de vouloir nous encourager à progresser dans la foi. C'est un amour fraternel qui fait un effort, qui va au-delà de simplement ce qui m'arrange sur le moment. Mais c'est discipliné, c'est engagé les uns envers les autres. Qui fait attention, oui, de ne pas de manière oisive dépendre de mes frères et sœurs lorsque je peux pourvoir pour moi-même, mais de faire un effort toutefois, d'être parmi mes frères et sœurs pour les encourager. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification par l'œuvre de son esprit qui travaille en nous, encourageons-nous les uns les autres à apprendre comment nous devons marcher pour plaire à Dieu. Bravo à vous pour votre écoute, chers amis. Je n'ai pas eu le temps d'adapter ça énormément pour Zoom, donc j'espère que vous avez pu néanmoins comprendre quelque chose. Je vais prier maintenant et ensuite je redonne la parole à Joël pour la dernière partie et le dernier chant. Donc, prions ensemble. Seigneur, nous sommes conscients du privilège que nous avons d'être à toi, d'être appelés par toi, de ne pas être ceux qui vivent sous ta colère, mais d'être ceux qui connaissent Jésus-Christ, Jésus qui lui a pris la colère, qui en lui nous sommes ressuscités à une nouveauté de vie. Et nous voulons, Seigneur, donc, de faire ce que toi tu veux. Nous voulons être ceux qui progressent dans la sanctification. Oui, dans ce domaine d'immoralité sexuelle, mais aussi, Seigneur, dans ce domaine de l'amour fraternel. Donne-nous de réfléchir, peut-être encore aujourd'hui, peut-être pendant cette semaine, là où tu nous appelles à changer, à nous repentir, là où tu nous appelles à progresser. Donc, sois avec nous, donne-nous la grâce de faire cela, non pas pour mériter ton amour, mais pour refléter ton amour. Donne-nous d'encourager nos frères et sœurs respectivement dans ces deux domaines. Que tu sois glorifié, Seigneur, au sein de ce peuple. Et nous te demandons cela au nom de Jésus. Amen.